France Inter.
Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Leïla Kadrounadi, bonjour Daniel Morin.
Coucou les amis.
Salut à la bande, ce matin nous sommes sur du haut de gamme dans cette BO Leïla.
Oui, puisque nous recevons un chef, il est maestro aussi, puisque le temps de son encyclopédie culinaire des territoires de France, il se transforme en historien gourmand.
Wow.
C'est Jean-François Piège.
Oui, pour son livre particulièrement indigeste.
Ça s'appelle un pavé.
Ouais.
Je viens de dire à Camille qu'elle avait la même couleur de cheveux que Bruno et je pense que...
Alors qu'à la base, j'ai demandé un blond doré. Enfin,
non,
Bruno, t'es super. Hein.
Tu n'étais pas
un but capillaire pour moi.
Ça vous dérange de saluer notre invité?
Bonjour Jean-François.
Je fais pas de couleur.
Non, mais vous, ça se voit, vous avez très beaux cheveux.
Ouais, c'est vrai.
Jean-François Piège est notre invité.
Fini cette conversation avec cheveux, c'est ridicule.
Je sais, Daniel.
La question, comment allez-vous Jean-François?
C'est vrai ça.
Quelle est votre humeur du jour?
Ouais.
Et dans quelle humeur êtes-vous généralement d'ailleurs?
Bah, de bonne humeur.
C'est vrai.
De bonne humeur, ouais.
C'est un bon moment pour un chef étoilé. Est-ce que déjà le matin est le même matin que pour nous? Est-ce qu'un chef se lève plus tôt? Est-ce qu'il se lève à 4h du matin pour aller à Rungis ou plus maintenant?
Pour emmener les enfants à l'école.
C'est le discours ou c'est... Non, c'est les enfants.
Camille Lavabre, dans quelle humeur es-tu? Enfin, ça se voit, mais si...
Moi, je sors de chez le coiffeur. Donc
c'est pas vrai.
Ouais.
T'es belle, mon chat.
Oh, merci, Léa.
Oui.
Merci beaucoup. Je suis ravie de ce blond doré.
C'est bien. Mais pourquoi t'es pas restée jusqu'au bout?
Non, c'est pas vrai.
Alors, Camille, dis ce que tu dis à l'heure.
Ne te laisse pas impacter par ça. Jamais.
Heureusement qu'il
est... Je suis joie éternelle du matin et d'autant plus heureuse de voir Jean-François Piège parce que on ne me parle que à la maison des vidéos. Jean-François, il fait comme ça. Jean-François, il coupe le cresson en petits morceaux. Comme ça, il n'y a pas de filament. J'ai un fan de vous à la maison. Ouais, j'ai un fan de vous à la maison qui parle que de vous.
C'est donc ton mari, hein,
c'est Jean-François.
C'est Jean-François.
Il est tellement fan, vas-y.
C'est vrai.
Bruno, Péki, dans quelle humeur es-tu?
Moi ça va, mais je vais prendre un rendez-vous chez le coiffeur. J'ai appris que c'était pas un but capillaire pour Camille, donc je vais prendre un rendez-vous jusqu'à devenir le but capillaire
juste,
de Camille.
Juste pour être différent déjà, pour marquer ta différence, parce que là vous êtes trop proche, on sait plus qui.
Non.
C'est vrai.
Julien Santini.
Je suis dans un état d'esprit de camaraderie parce que j'ai pour Bruno, Camille et Alexandre beaucoup d'amour. Et c'est la première fois qu'on est ensemble.
Et nous on crève l'autre de l'autre côté de la table.
Je ne vous souhaite pas la mort, mais je vous souhaite un destin qui ne m'est pas. C'est pas le mien, quoi. Voilà, c'est pas un destin de communauté.
D'accord,
quoi.
C'est bien honnête.
Moi, je suis d'humeur gourmande.
Ah.
Et voilà, parce que c'est un grand chef et il y a des lycéens. Enfin, ou alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
J'ai pas compris la gourmande.
Non. Voilà.
Mais... Dans quelle humeur es-tu?
Eh bien, moi, j'ai décidé de vous inviter, Nagui, Leïla et Daniel, pour aller manger dans le restaurant qui est pile en face de chez Julien Santini. Pour lui cracher notre bonheur à la gueule.
Bien. Daniel.
Ouais, alors moi je suis désolé, mais j'ai le même coiffeur que Camille et je me rends compte qu'on n'est pas du tout traité de la même manière. Il faut que je lui dise deux mots. Il a raté mon blond d'or.
Il a laissé poser trop longtemps.
Ah ouais, du coup,
Et moi c'est une fête de. Je suis dans la mentalité du. Tu sais, du lâcher prise.
Ça se matérialise comment le lâcher prise là?
Ça se. Ça commence déjà par se moquer de ses camarades sans se soucier du lendemain.
Non, ça, pardon, c'est pas nouveau.
Léla, on en a parlé tout à l'heure. Déjà physiquement, il y a un gros lâcher prise.
Ça s'appelle l'âge, ça.
Et vous le voyez pas, mais il a pas de pantalon. Donc vraiment, c'est. Vraiment sur un agui de très haut niveau.
Pardon à tous les stagiaires.
Mais les jeunes le voient.
Donc c'est pas un ourlet, ça relâche moins.
Pardon Jean-François.
Je vais ramasser le bout de peau qui est par terre.
Et ça a changé ici.
Nous allons malgré tout parler de l'encyclopédie culinaire des territoires de France.
Ouais.
Déjà le titre Jean-François Piège. Encyclopédie culinaire des territoires.
Carrément,
c'est le poids.
Incroyable.
Non, ça pèse.
C'est pas chez Poche. Hein.
Ça pèse. Non, c'est chez.
Chez Plon.
Chez Joli.
C'est inconnu, c'est un classique quoi.
Comme van?
Chez les inconnus. Les okay,
inconnus.
Alors, Jean-François, vous avez réuni par région toutes les. Je ne sais pas combien de milliers il y en a.
Non, parce que. En fait, il aurait fallu qu'il soit le double en fait.
Ah ouais?
C'est vrai?
Ouais.
Il y a des régions qui sont dégueulasses, donc il n'en valait pas la peine.
Ouais. Là, il y a 1800 recettes, j'en ai fait 2500.
Et il y aurait pu y en avoir encore mille de plus.
Oui, pardon, il y en a certaines qui sont des déclinaisons un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a, si on prend par exemple le...
La potée, elle se retrouve en Lorraine, elle se retrouve dans le sud-ouest.
Même pour aller plus loin, le cassoulet, il suffit de faire 10 km et c'est pas le même cassoulet entre Toulouse, Carcassonne...
Alors, c'est un zéro de plus alors qu'il faut rajouter si on en est là.
Oui, mais il y a des nuances.
Les nuances, je suis pas allé. Okay. Je suis allé juste dans le fait que je connaissais des recettes. En vérifiant la recette, je m'aperçois que je trouve une autre recette, je tire sur une ficelle, et c'est une ficelle sans fin, en fait.
Ce qui est passionnant, c'est finalement la promenade à laquelle vous nous invitez, parce que évidemment, il y a ces 1800 recettes présentées, évidemment que ça donne envie d'en goûter certaines, voire toutes, mais surtout, on se balade, on se promène, on comprend finalement qu'une plante, qu'un légume de telle ou telle région n'a pas forcément le même goût, le même traitement qu'une autre, et c'est ça qui est une force. Et moi, j'ai vraiment été bluffé par le nombre de déclinaisons possibles. On prend n'importe quel légume, que ce soit une carotte, une aubergine ou une endive.
Ça porte pas le même nom parfois.
Ouais, en plus, c'est ça. Ouais.
Dans le Loir, ça s'appelle les blettes, ça s'appelle la jotte, et parfois, en Provence, ça s'appelle bête.
C'est un boulot considérable, hein, franchement. Est-ce que vous avez testé toutes les recettes? Parce que 1800 recettes...
Dans ma tête. Dans ma tête.
Okay.
Non, dans votre vie aussi, j'imagine.
Pas toutes. Non, pas toutes. J'ai pas pu les tester parce qu'en fait, il y a certaines que je connaissais pas, que j'ai découvertes en cherchant.
Mmh. Et pourtant, on est vraiment dans les fondamentaux et dans le traditionnel. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de world food.
Non.
Il n'y a pas de mélange particulier.
Ça, c'est ce qui a fait la cuisine française.
Voilà, c'est ça. C'est les fondamentaux.
Et ce qu'il faut dire, c'est que des recettes simples, parce que quand on regarde le nombre d'ingrédients... Si, on prend le nombre d'ingrédients, il y a 4-5 ingrédients. C'est des recettes ménagères. Tarte chantilly, un fond de tarte, crème liquide, sucre glace, gousse de vanille. Terminé. Et on peut passer...
C'est quoi ça?
La tarte chantilly.
La potée.
Et on peut. on parlait des beignets de carnaval, les merveilles.
Ouais.
C'est aussi des beignets de carnaval. Je les ai mis dans le Périgord, j'aurais pu les mettre ailleurs parce qu'il y a d'autres noms. Ouais. Mais il y a 6 ingrédients. Ouais. C'est une cuisine ménagère, c'est pas une cuisine complexe.
Vous jugez.
Une cuisine qui prend du temps.
Ok, ouais.
Ça, c'est autre chose. Ah. C'est une cuisine qui prend du temps parce que le mijoter, ça prend du temps. Mais c'est la cuisine de monsieur et de madame tout le monde. Mm. C'est de la cuisine familiale.
Et des grands-parents. Et qui se transmet. C'est dans cette idée de transmission que vous réalisez cette encyclopédie. On en parle jusqu'à 12h30. Mmh. Mais d'abord, voici votre plus grand fan. Ah oui, c'est Ol de la.
Je suis fan de Jean-François Piège. Je suis fan depuis la fonte des neiges. C'est un des plus grands chefs, il a même 2 étoiles. Il est aux casseroles ce que Daniel est au poil. Je suis fan de votre tourte au pois chiche. Je suis fan de votre caviar d'Aquitaine. Je suis fan de votre chevreuil de chasse. Je suis fan de votre oignon de Roscoff. Je suis fan de votre poêle de Bretagne.
C'est bon, vraiment là, c'est vraiment très gênant là ce que t'es en train de faire.
Moi, je suis vraiment fan de toutes ces recettes.
Non, juste tu gagnes du temps sur ta chronique, tout le monde l'a vu. C'est
tu sais, j'ai tellement faim, Camille.
Mais t'as tout le temps faim. Tu as tout le temps faim, Holden.
Oui, pardon.
Bon allez, chante. Ouais. Fais une chronique, hein. On paye pour ça.
Et vous êtes ici pour votre encyclopédie. Un grand voyage en France et sa gastronomie. Le livre fait 720 pages et près d'8 kilos. J'ai lu que 8 pages mais pris 720 kilos. Je suis fan de Jean-François comme chef. Vous étiez dans la saison 1 de Top Chef. Vous étiez dans la saison 2 de Top Chef. Vous étiez dans la saison 3 de Top Chef. Vous étiez dans la saison Top 4 de Top Chef. Vous étiez...
Vraiment, Oeil de Lave, ça se voit, c'est très très gênant.
Non, mais c'est vrai, en fait, il était vraiment aussi dans la saison 5. Et...
D'accord. Il était aussi dans la 6, il était dans toutes les autres, tu sais.
Ouais,
dans...
parce que j'allais en parler. Parce que...
Vous étiez dans la saison 7 de Top Chef.
Non, tais-toi. Est-ce que t'as une chute?
Ah oui.
Vas-y, c'est bien.
Ah ouais.
Ça veut dire que vous êtes sûrement un chef top.
C'est la chute.
Oui.
D'accord. C'est affligeant. C'est vraiment affligeant.
Non.
Ouais, allez, appelez-moi la DRH parce que.
Non, Camille, c'est Noël, je t'en prie. Oh, je suis fan des restos étoilés, même une étoile comme l'as du falafel rue des Rosiers. Vous êtes notre invité, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec. la bande originale.
Évoquons donc avec vous, Jean-François, ce livre qui est un formidable cadeau aussi que l'on peut faire. Est-ce que c'est un livre, sincèrement, à mettre dans une cuisine avec des marque-pages, avec des taches d'huile? Non, ou c'est juste le bel ouvrage que l'on met dans sa bibliothèque en référence, entre guillemets, en disant voilà, j'ai l'encyclopédie de la cuisine.
D'habitude, j'aime bien que les livres arrivent en cuisine. Celui-là, je pense qu'il a une toile, il peut rester dans la bibliothèque.
On appelle ça un beau livre, on est d'accord.
C'est un beau livre.
Avec des sublimes photos. Et alors, ce que je trouve fort, c'est que dans les livres de recettes de cuisine, généralement, il y a la photo des ingrédients, la photo du plat mijoté, fignolé. Mais là, il y a aussi des paysages, comme si ça faisait partie de la cuisine.
Totalement. Je le dis dans la préface, je dis la cuisine des régions en France. C'est un lien social, c'est ce qui se passe au marché, c'est ce qui se passe au café du coin.
Ouais, c'est des photos même de marché.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai voulu intégrer ça dedans, parce que je trouvais que chaque région avait son identité et qu'elle apportait plus que mélanger des ingrédients, faire de la cuisine. Tout le monde en parle. Il y a beaucoup de livres de recettes. En revanche, traiter de ses origines et ce qui fait que la cuisine française est la cuisine française. Mmh. En fait, elle vient des régions de France. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre.
Et puis aussi des photos de vous en vacances. Non, c'est très, c'est très joli. On apprend à vous connaître.
Moi qui ai pris ces vacances avec Olivier Mine dans Fort Boyard.
C'est un choix.
Mais est-ce qu'on est un pays, le pays le plus dense en matière culinaire en fonction des régions, ou est-ce que tous les pays du monde ont autant de recettes par région? J'arrive pas à me rendre compte.
Moi, je pense que la gastronomie, en fait, on a voulu dire que la cuisine, elle était française, et je pense que la cuisine n'est pas française, elle est mondiale. En revanche, la gastronomie, elle est française parce que avec ses régions, ses rites, ses recettes, ses agriculteurs, ses éleveurs, en fait, on est le seul pays avec cette diversité qui fait cette richesse, en fait.
Mais pourquoi? Parce qu'on a des climats tellement différents, parce que justement...
On est un hexagone, on a plusieurs mers qui bercent nos côtes, et puis on a des traditions fortes. Et
on a le bord de mer, on a la montagne, on a la campagne, on a toutes les...
L'Est, un saucisson dans l'Est et un saucisson dans le Pays Basque, c'est pas la même chose. Une saucisse, c'est pareil. Un légume qui pousse le chou...
Il n'a pas le même goût.
Le fil d'or... Il sert à faire la choucroute quand on est en Alsace. Mmh. Il sert à faire la gerbure dans le sud-ouest. Et pourtant, ça reste du chou. Et c'est deux opposés. Et on s'aperçoit que c'est une cuisine qui est plus pratiquée, en fait. Parce que ces recettes-là, on les oublie.
C'est long, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça prend beaucoup de temps.
Oui, mais quand on reçoit sa famille à la maison, c'est quoi le plus grand bonheur qu'on a? C'est partager la
table.
Bon, je vais y aller alors, je vais partir.
Tu cherchais deux personnes généreuses. Tu les as trouvées.
C'était soit ça.
Et c'est ça l'ambiance de Noël. Bravo.
C'est venu tellement vite que c'est gênant. C'est gênant.
Vous connaissez bien.
C'est révélateur.
Je me demande si c'est pas la même famille quelque part.
C'est pas pour vous.
Inquiétant. Comment
tu l'as vécu, cette ancienne?
Mais moi, déjà, j'adore les livres de cuisine, j'adore les beaux livres. Et c'est vrai
c'est un sublime livre.
En plus, se dire, tiens, par région, on va tout de suite voir sa région pour voir ce qui a été retenu de sa région. Parce que finalement, ce qu'on pense être une sorte de plat habituel dont on parle autour de soi, personne ne le connaît. Quand on retrouve, je sais pas, les cagouilles à la charentaise, qu'on retrouve.
Dis un vrai nom.
Non, mais moi, c'est ça, c'est pas ma région. C'est
aujourd'hui, un article. Une cagouille.
Non, mais c'est ça, ma région, pour le coup. Non, mais c'est de découvrir aussi l'apport des régions selon d'où l'on vient, où on imagine que... Alors, je sais pas comment vous y êtes pris pour sélectionner, pour vous dire, tiens, telle région, je vais, non pas la réduire, mais je vais lister tel genre de recettes. Qui vous oriente là-dessus?
J'ai dit à mon éditrice, caprice de l'auteur.
Ah ouais, d'accord, c'est vous qui faites le choix.
C'est moi qui fais le choix. Après, il y a des régions qui ont été compliquées. La Nouvelle-Aquitaine, c'était la plus compliquée.
Bah, c'est la plus grande région, déjà.
C'est la plus grande région, et puis c'est surtout avec le découpage.
Mais oui, c'est pas simple.
Il y a un moment donné, le premier choix, c'était est-ce qu'on fait référence à ce qu'étaient les régions de France avant? Mais je me suis dit, les gens vont pas comprendre, en fait, parce qu'aujourd'hui, l'Andocroussillon, ça n'existe plus.
Ouais.
C'est intégré. Donc, en fait, j'ai choisi de prendre les régions du découpage de 2012, je crois.
Enfin, à part le nom des régions, peu importe, les villes restent. Les villes restent.
Oui, mais sauf qu'il y a un moment.
L'Est, le Nord, le Sud-Est.
Le Languedoc, aujourd'hui, n'existe plus.
Ouais. Et il était temps que ça dégage un peu. On s'est nous gavé le Languedoc.
Jean-François Piège signe l'encyclopédie culinaire des territoires de France chez Hachette Cuisine.
Nous a débarrassé du Languedoc, merci.
Je ne dis pas souvent le prix des livres parce que ça peut paraître mesquin, mais ce qui m'a surpris, c'est d'avoir ces 1800 recettes pour
1400 euros.
Ça va,
euros la
prix. C'est la bonne affaire de cet été.
Non.
Pas entendu le prix.
Il n'empêche, 80 euros pour 1800 recettes, tu ramènes ça au prix de, au prix de la recette, ça, ça se compte en centimes.
Je trouve que c'est vendu avec les légumes, la viande.
Et Jean-François qui vient.
Et Jean-François qui passe tous les samedis.
Pour 80 balles, hein.
Voici Bruno Pecky,
messieurs.
Ah oui, Bruno.
Bravo.
Vous n'auriez pas fait une encyclopédie culinaire comme ça?
Bah non, en fait, je l'aurais tout simplement pas sorti, ce bouquin. Non, parce qu'après en avoir écrit déjà une quinzaine de livres, normalement on s'arrête quoi. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous, s'il vous plaît. C'est déjà la 7e fois que vous venez en studio. Quoi. Et vous aviez même fait l'émission depuis chez vous pendant le Covid. Moi, je suis chroniqueur depuis septembre. Hein. Finalement, vous êtes venu plus souvent que moi dans cette émission. Quoi. Dans la bande originale, on compte pas la longévité en nombre de saisons, mais en nombre d'émissions avec Jean-François Piège comme invité. Quoi. Vous pensez à nous un peu les humoristes, quoi. On est à sec, quoi. J'espère que vous avez un peu d'huile, quoi. Rapport. Attendez, Jean-François, comment vous faites pour être aussi productif? Vous avez une recette?
Encore.
Bon, il y a peut-être moins de bites que dans les chroniques de Lisa, mais je fais dans l'allusion discrète, moi, ok? Non, franchement, avec Isabelle Carré et Riyad Satouf, vous êtes la personnalité qu'on a le plus reçue dans cette émission. J'ai pas vérifié cette info, mais votre non-réaction prouve à quel point ça pourrait être vrai, quoi. Même Michel Bussy et Johan Sfar trouvent que vous abusez, quoi. Moi, je vous le dis, je pense que vous êtes sur la shortlist qu'on a invité à Nul à la DER, quoi. On peut le remplacer par JF Piège, tu penses qu'il est dispo? Bah, il sort un livre tous les deux mois, ça a l'air d'être le coup de feu en cuisine, quoi. Arrêtez d'être aussi productif. Il y a des écrivains, qui ont sorti moins de bouquins que vous dans toute leur carrière, et pourtant ils font pas à bouffer entre deux, quoi. Je veux dire. Et maintenant surtout, on connaît vos playlists par cœur, et franchement, plus on vous reçoit, plus on voit que ça devient compliqué pour vous de choisir des musiques. Les premières fois vous veniez avec du Daft Punk ou les Beatles, bah la dernière émission vous êtes ramené avec du Big Flo Oli, quoi. Je veux dire, ça sent pas bon pour la deuxième partie de l'émission. Hein, parce que trop écouter Baby Shark et l'horloge parlante, tu vois qu'on a déjà fait, quoi. Non, mais c'est bon, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut dire, là, aujourd'hui, c'est votre dernière émission, quoi. Je veux dire, non, à moins d'inventer un nouvel aliment, on peut dire que c'est votre dernière émission. Et en plus, c'est pas des livres de poche, hein. C'est pas du tout adapté aux appartements parisiens. Si je prends votre livre de 720 pages dans ma cuisine, bah, j'en peux dans la cuisine après, quoi. C'est lui ou moi. Et malheureusement, le livre, il peut pas cuisiner tout seul, quoi. Franchement, si le prochain bouquin, il arrive à faire ça, promis, on vous réinvite avec plaisir. Non, vous êtes venu tellement ici que vous pourriez au moins nous inviter pour notre repas de boîte de fin d'année, quoi. Je demande parce que personne n'ose le faire, quoi. Non, mais attendez, vous êtes venu 7 fois à notre boulot. On peut venir une fois au vôtre. Les réals, ils nous invitent à voir leurs films, les comédiens, leurs pièces. Les chefs, jamais dans leur resto, quoi. En plus, vous en avez tellement à Paris. Vous nous invitez à celui que vous voulez. Hein. Nous, on n'est pas difficile, soit le grand restaurant ou le grand restaurant. Nous, on vient. Quoi. Là, je vous demande ça parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis un grand fan, vraiment. Quand j'étais petit, je vous regardais à la télé, vous m'avez donné l'envie de devenir cuisinier. Je vous jure, c'est vrai. J'ai même fait un stage dans une cuisine à la fin de la première journée, je vous jure, ouais.
Oh, wow.
Enfin, la première journée, j'ai dit plus jamais. parce que je devais être tout le temps debout et je m'étais pas rendu compte de ça. Et maintenant, je fais du stand-up. Voilà. Ouais. Ça en dit long sur mon niveau d'anglais, quoi. Et j'ai vu dans votre bio, hein, que vous, quand vous étiez enfant, votre rêve, c'était pas d'être cuisinier, mais d'être jardinier. Donc on a un point commun, on ne fait pas le métier de rêve qu'on avait enfant. En quelque sorte, on peut dire qu'on a tous les deux foiré nos vies. Malgré tout, j'ai quand même lu les recettes de votre nouveau livre. Et en tant que Suisse, ça me fascine de voir autant de diversité culinaire parce que nous, c'est beaucoup de trucs avec du fromage et du chocolat, quoi.
C'est vrai.
En gros, tu nous enlèves les vaches, il nous reste que des patates et du pain, quoi. Pas si riche que ça, les Suisses. Hein. Allez, encore une bonne raison de m'inviter au resto.
Yes. Merci. Bravo. Alors Jean-François, Jean-François Piège, dans les recettes que vous citez, il y a des aliments, il y a par exemple le riz et les pâtes. Est-ce que le riz et pâtes, on peut considérer ça comme un savoir-faire français?
Oui, quand il est de Camargue, pour le riz.
Ok.
Et les pâtes, quand elles sont...
Faites maison,
et puis si elles touchent l'Italie, sur le comté de Nice, sur les pâtes au pistou, et puis si on va sur l'Alsace, il y a une vraie tradition dans l'Est sur les pâtes, il y en a beaucoup.
On est aussi sur un problème de saison, il y a par exemple, les tomates ne sont pas mangeables et consommables à toutes les saisons, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui compte pour vous? Je le sais dans vos restaurants, mais comment faire un livre de recettes sans, en tenant compte des saisons?
Bah, tout simple, on va au marché. Parce que si on va au marché et qu'on va
voir... Ne trouve pas
de tomates du producteur local, on n'en fait pas.
Mais souvent, on en trouve quand même toute saison des tomates, malheureusement.
Oui, mais pas chez les producteurs, chez les revendeurs.
Ah oui. Ouais.
Et c'est l'idée du marché. C'est, alors, je sais que c'est un petit peu aujourd'hui.
Tout est mélangé.
Ouais, tout est mélangé, mais une étale de producteurs, ça se reconnaît bien.
Ouais. Comment
c'est moins organisé.
Comment aussi faire référence à l'encyclopédique, au côté encyclopédique, en tout cas historique de la cuisine française, sans prendre en compte l'évolution de cette cuisine sur plus ou moins de matière grasse, sur plus ou moins de sucre, plus ou moins. Enfin bon, je sais, et on l'a beaucoup évoqué. évoqué ensemble, et vous en avez fait aussi des livres de recettes, la cuisine évolue, la consommation évolue, la tension et même par moments l'appréhension de certaines personnes évolue. Là, vous avez fait le choix des fondamentaux avant tout.
Oui, mais en fait, c'est la malbouffe qui est grasse, pas celle-là. Celle-là, il y a pas, quand on regarde les recettes, il y a pas une quantité de matière grasse. Pas,
je comprends. Il y a de la graisse animale qui sert de, oui,
mais pas tant que ça en fait.
Dans les Landes.
Ouais, le confit de canard.
Voilà.
Oui, mais c'est pas gras. On dit c'est pas gras. Le confit, c'est pas gras.
Non, mais blague.
Non, il y a pas tant que ça. Franchement, sans blague, je trouve que cette cuisine est très naturelle. En fait, le danger dans la nourriture, c'est de manger de la nourriture qu'on a achetée transformée, ouais, qui, elle, a des additifs, a du sucre et du gras. Et ce qui est mauvais, en général, c'est la conjonction du sucre et du gras. Là-dedans, il n'y a pas cette conjonction-là. Et il n'y a pas une quantité folle de matière grasse. Et c'est plutôt assez naturel. Manger ça, c'est pas une ordonnance, mais presque, hein.
Il y a des éléments, des légumes, des ingrédients qui se retrouvent dans toutes les régions.
Non, il y en a certains qui sont liés. Bah, le haricot de maïs, on parlait du cassoulet tout à l'heure. Est-ce que c'est un lingot ou...
Non, mais par exemple, une pomme de terre, on peut la trouver partout, c'est... Ouais, non,
oui, mais sauf qu'il y a pomme de terre et pomme de terre. Moi, je m'amuse en ce moment parce que dans un de mes restaurants, je trouve que les frites sont pas au top. Donc on s'est amusé à prendre différentes pommes de terre, à les cuire à différentes températures, les laisser refroidir avant de plonger le deuxième bain et autres. Et en fait, un détail, ça change tout.
Le fait de l'essuyer ou pas quand on l'a...
Exactement.
C'est ça aussi, ça change,
ouais,
tout.
Ça change tout. Est-ce qu'on la lave? Est-ce qu'on l'essuie? Est-ce qu'on la lave avant? Est-ce qu'on la lave après l'avoir coupée? Tous ces détails font que ça donne un résultat qui est différent.
Alors on fait comment ces frites?
Vous l'expliquez en tout cas.
Ouais.
Et la blague, c'est que j'ai trois restaurants dans un petit périmètre.
C'est trois pommes de terre différentes?
Et trois façons de faire différentes.
Ah ouais.
Et on n'arrive pas parce que je trouve que ça marche pas avec le restaurant.
Mais ouais, parlez-vous comme ça.
Ah, c'est
mais
ça.
Alors, mais alors qu'est-ce qu'il faut? Non, mais il y a quand même la frite. Fait référence à une pomme de terre précise. C'est quoi? C'est la binge.
Celle qu'on a trouvée, c'est l'agata.
Ok.
L'agata.
Non, mais que vous avez trouvé. Mais si la naissance de la frite s'est faite à partir de quelle pomme de terre?
Quand Parmentier a ramené la pomme de terre en France.
A fait croire que c'était un bien précieux. Mais
parce que non, parce que d'abord il l'a donné.
Ouais.
Et
personne n'en voulait.
Personne n'en voulait. Donc il l'a mis dans un clos, ils ont monté les murs, ils ont mis des gardes devant, mais ils ont laissé les gens rentrer parce qu'évidemment, et c'est comme ça que la pomme de terre s'est popularisée en France.
C'est génial comme idée.
Ah ouais, c'est super de rendre.
Le français est râleur. Et donc...
Non, mais je crois de mémoire, il me semble qu'il avait mis des militaires qui gardaient les pommes de terre pendant la journée, et la nuit, les militaires partaient. Donc
oui,
tout le monde s'est dit, il y a personne de garde de nuit, donc c'est précieux, donc on va aller les piquer, et ça doit avoir une valeur. Justement, la valeur aussi, est-ce qu'il y a un prix moyen? Est-ce que vous avez fait attention aussi à éviter à ce que des recettes coûtent trop cher parce que les produits sont tellement rares que ça coûte trop cher?
Bah, c'est-à-dire que les Saint-Jacques, je les ai faits de Quart Normandie et je crois qu'il y a une photo de Saint-Jacques Quart Normandie, je crois, ouais, que c'est 5 euros le kilo.
Oui.
Donc en fait, ouais, en fait non, comme localement, c'est que des produits locaux. Quand on mange le homard, qui est la vraie saison du homard, qui est un produit de luxe, hein, mais quand on mange en été... le homard, ça coûte moins de 30 euros en été quand on est sur la côte, et on peut manger à 4 dessus. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent, mais si on mange pendant la saison et localement, tout est...
On peut s'en sortir.
On peut s'en sortir, et on peut tout goûter une fois. On mangera pas tous les jours la même chose.
Quelle région vous correspond le plus? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, j'appartiens plutôt à quelle région, culinairement parlant?
C'est vrai. Non, mais
parce que je suis cocardier.
C'est la question piège.
Ouais.
Wow.
Joli. Mais en même temps, tu sors.
Bon, peut-être que j'ai bien aimé faire Auvergne-Rhône-Alpes.
Ouais.
Bon, c'est ma région. Mais j'ai bien aimé faire Nouvelle-Aquitaine aussi.
Et la région la plus dégueulasse au niveau traduction? Pour vous, c'est laquelle?
Toi, t'es la
Corse.
La plus pauvre.
J'adore les Corses.
Ouais.
La région la plus compliquée à faire parce que c'est... Il y a des recettes qui sont... C'est l'Alsace.
Oui.
Mais j'ai adoré la faire parce que c'était des découvertes en permanence. Mais quand il y a des...
C'est écrit en allemand en plus, donc...
Ben voilà, c'est ça. C'est...
Et dans le centre Val-de-Loire, ouais, il y a les œufs à la couille d'âne. Alors ça...
Je sais pas pourquoi, je m'en doutais que c'est ça allait arriver.
Mais comment vous faites?
C'est une spécialité.
C'est l'œuf en meurette, en fait.
Bah, pourquoi vous écrivez
Versus, en fait, l'œuf en beurrette, l'origine. Il y a quelques textes aussi dans les recettes à chaque fois.
Non, mais ce qui est bizarre, c'est que vous dites que c'est une spécialité du Berry. Les œufs sont pochés directement dans du vin rouge et du vinaigre, ce qui leur donne une couleur. La couleur. Des couilles d'âne. Alors, mais qui connaît la couleur des couilles d'âne?
Genre tout le monde.
Cher
Nagui, tout le monde.
Mais d'ailleurs, la photo de l'âne est très réussie à côté.
T'as jamais couché avec un âne?
J'ai jamais.
En fait, t'ai jamais montré les miens.
Je vous rappelle que nous avons des stagiaires dans ce studio.
Nous avions.
Je vais voir qui va enlever son pantalon.
1800 recettes, l'encyclopédie culinaire des territoires de France, un très bel ouvrage signé Jean-François Piège. Chez Hachette Cuisine, voici Julie
Courtine. Ah, hey. Les amis, on est dans une période plutôt difficile, mais j'ai une bonne nouvelle pour monter le moral. Vous êtes prêts?
Oui. Ouais.
La France est le pays le plus fécond de l'Union Européenne. Wouh, on est champions. On est tous ensemble. On a baisé. La France reproduit beaucoup. Alors beaucoup, faut pas exagérer, hein, parce que la France est number one en Europe, certes, mais il y a quand même eu moins de naissances. En 2024, 663 000 enfants sont nés. L'année dernière, la France a accouché du Luxembourg. Voilà. Pour visualiser, 663 000 enfants, c'est comme si P. Diddy et Jeffrey Epstein avaient décidé de fêter leur anniversaire ensemble. Mais ça reste 2,2% d'enfants en moins qu'en 2023. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire, hein, qu'il y aura moins de gosses pour nous casser les couilles dans le train? Oui, c'est pas faux. Mais surtout qu'on va avoir droit à la rengaine habituelle autour de la natalité. Mmh. Hein, on va mettre la pression sur les femmes pour qu'elles fassent plus de gosses en les culpabilisant avec des arguments du genre « Pondez des gosses, sinon on va manquer de force de travail ou démouler des chiards pour payer les retraites !» Mais à quel moment ça te donne envie de faire des gamins, d'entendre ce genre de discours? Moi, quand j'ai eu envie d'un enfant, j'ai pas dit à mon mec « Mon amour, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je crois que j'ai envie de créer de la main-d'œuvre avec toi. J'ai super envie d'engendrer des contributeurs pour financer notre système de protection sociale !» Non, non. Et je me dis, moi, je pense à Macron. Il doit être tellement déçu, le pauvre minou. Non, mais je suis sûre qu'avec son discours nataliste de l'année dernière, il pensait faire mouche et qu'après avoir l'écouté parler de réarmement démographique, les Françaises allaient s'empresser de crier « Chérie, fais atterrir ton Mirage 2000 dans mon gros porte-avions !» Bah non, ça n'a pas pris. Il y a moins de naissances. Et pourtant, on y a cru à cette reprise des naissances. Surtout quand notre cher Carlos a proposé de donner de son jus de cordon pour relancer la natalité. Récoutons notre poète ibérique.
Avec ce que j'ai mis pantalon, je mets pas les femmes enceintes, Nagui. Je fais des portées.
Eh ben non. Désolé, mon grand, mais ça a pas marché. Ay, Carlos, cariño, lo siento. Il faut aller voir les proctologos pour tes castagnettes parce que je pense que tu tires à blanc. Hein.
Oh, joli.
Et depuis que les chiffres de la fécondité sont tombés, bah, les médias invitent des spécialistes pour savoir pourquoi on fait moins d'enfants. Mais la vraie question, c'est pourquoi il y en a encore qui décident d'en faire encore. Et est-ce qu'il y a une bonne raison d'avoir des enfants? Pour moi, c'était assez clair. Je voulais des gosses parce que depuis toute petite, je rêvais d'être une MILF. Donc voilà, je suis une modeur. Je cherche des volontaires pour la suite de l'acronyme. Et surtout, je voulais des gosses pour pouvoir aller à Disneyland sans dégager une vibe de prédateur sexuel. Après, vous me direz, je pourrais déjà commencer par changer de lunettes, ouais. Ça aiderait. Hein. Mais souvent, c'est pas le manque d'envie qui fait qu'on décide d'avoir moins ou pas de gosses. C'est pour des questions très rationnelles, genre les limites financières, les défis de fertilité, problèmes de garde ou le manque d'espace. Les amis, au prix du mètre carré à Genève, moi, j'ai dû choisir entre un troisième enfant et un lave-linge chez moi. Hein. Bon, c'était soit ça, soit j'apprenais au troisième petit dernier à laver le linge à la main. Bon, ça, c'est pratique pour le cachemire, faut le dire, hein, quand même. Mais en vrai, j'ai toujours voulu que 2 enfants, parce que moi, je vois la parentalité comme un combat de rue. Hein, pour avoir une chance, il faut que l'affrontement soit équilibré, 2 contre 2. Ouais, ma vision de la maternité, elle est pas très Montessori. Hein. J'ai toujours été plus MMA que PMA, il faut l'avouer. Mais j'avoue, des fois, j'ai des envies de briser cet équilibre et de refaire un petit troisième. Genre, par exemple, quand je tombe sur des vidéos d'un petit truc potelé trop mignon sur Instagram. Alors, Alex, t'excites pas, on n'a pas le même algorithme. Hein. Quand je parle de truc potelé, je parle d'un bébé, pas d'un cul. Et du coup, si la baby fever, elle me reprend, je réécoute un message que je me suis enregistré quand j'étais au plus bas. On va l'écouter.
Hello, Julie, c'est Julie. On est le 16 juillet 2019, il est 6h15 du matin, et toi t'as déjà torché 2 culs. Et mon chapiteau, c'était le tien. La petite, elle a eu la gastro toute la nuit, et elle a germé sur tes nouvelles crocs. Le dernier contact physique que t'as eu avec ton gars, c'est parce que vous avez pris le bus ensemble aux heures de pointe. Alors voilà, si tu refais un gosse, ah ben moi je me suicide.
Voilà. Donc finalement, pour une fois, je crois que je vais écouter mes conseils. Et pour le reste, je sais que je pourrais toujours compter sur Carlos.
Caliente, merci. Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux après Ascendant Vierge au milieu. vous chercher. Ça s'appelle Ascendant Vierge pour l'interprète. Et c'est dans la bande originale de Jean-François Piège.
Ascendant Vierge. T'as perdu un pari, Nagui. Hein. Tu dois passer tous les artistes avec des noms pourris. C'est ça, à vous.
Un ouvrage qui vous a pris 2 ans de travail, Jean-François Piège, l'encyclopédie culinaire des territoires de France, avec l'aide de Fred Mira, votre chef exécutif. En quoi il a été un partenaire important?
Parce que quand on cuisine, je ne suis pas tout seul, et donc il était avec moi dans la cuisine, et puis c'était chouette d'échanger avec lui en se disant...
Vous avez besoin de cet échange
Avec les équipes, oui. Ouais. Et puis même, il y a une photo dedans, le tourtou.
Photo de Charlie Deslandes.
Oui, il a ramené c'est comme une crêpe dans le sud-ouest. Il a ramené les objets que sa grand-mère avait.
Ah ouais, les ustensiles.
Donc c'est chouette. Et quand je parle des tripes, j'avais un autre chef. Lui, il est normand, donc je les ai fait avec lui.
Alors vous parlez justement de ce côté séculaire, essentiel, devoir de mémoire ou travail de mémoire sur la cuisine française et avec cette encyclopédie. Et de temps en temps, il y a la recette de ma femme Élodie, que vous glissez comme ça, ce crédit, en disant, c'est la tatin, je crois, ou la tarte aux pommes, je sais plus.
Le gratin dauphinois.
Oui, exactement.
T'étais pas loin, hein.
Je savais qu'il y avait des tranches. Il y avait des tranches fines. Et pourquoi là vous craquez et vous...
Elle est au courant ou pas?
Vous donnez la recette de votre douce.
Parce que c'est des recettes qui nous appartiennent en fait, et qu'à un moment donné, comme c'est notre livre,
vous mettez votre touche.
Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a les ravioles du Royan, parce que mon papa est originaire de Saint-Jean-en-Royan. Et ces ravioles qu'on connaît, ces petites ravioles, moi j'ai mis la recette de ma famille en fait. Mais il y a autant de familles que de recettes.
Est-ce que c'est pas ça le propre? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas ça le propre d'une recette, c'est qu'elle évolue aussi en fonction des traditions, des goûts personnels, de l'équilibre que l'on a envie d'y mettre, en mettant plus ou moins de fromage fondu dans un gratin ou plus ou moins de pommes de terre. Et quelles pommes de terre mettre dans un gratin dauphinois? C'est comme les frites, non, j'imagine?
Pareil.
Chair ferme.
Plutôt,
plutôt.
Les amandines, en fait, il faut juste se dire une chose. C'est que ça, c'est un guide. L'idée, c'est que la cuisine, c'est pas compliqué, c'est pas complexe. Et faut pas se dire, tiens, la photo, elle est comme ça, la recette, elle est comme ça, on va faire comme lui. Non, c'est un guide, on se lance. Et probablement, ça amènera à faire votre recette, et c'est celle-là qui sera la meilleure.
Qui sera la recette familiale.
Ouais, qui sera la meilleure.
Vous parlez d'ustensiles tout à l'heure avec un de vos chefs. Mmh. J'imagine que là aussi, le contenant, il est important.
Ah mais dingue, ouais. Incroyable. Mmh. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais tous les contenants, je les ai chinés, ouais. Parce que je trouvais que ça donnait un goût différent. Et on l'a vu quand il y a une photo dans le Tarn, ils font la tomata. La tomata, c'est une sauce tomate avec des aubergines traditionnelles. Eh bien, si on la fait dans une casserole moderne, j'allais dire, si on la fait pas dans une cocotte de fond, on n'a pas le même goût.
Mmh. C'est fou.
Fou.
Et pareil pour la cuisson, c'est-à-dire gaz, induction électrique, ça
fait une blanquette
pas le même goût.
De veau. Dans une casserole sur une induction, vous faites une blanquette de veau cuite sur du gaz, elle n'a pas le même goût.
Pourquoi?
J'aimerais bien savoir.
Il y a quelque chose.
Et le seul restaurant où j'ai gardé du gaz, c'est le restaurant où je fais cette cuisine-là, c'est à la Poule au Pot. Quand j'ai refait la cuisine, j'ai mis du gaz parce que je pense que ça n'a pas le même goût.
Ouais.
Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr.
L'encyclopédie culinaire des territoires de France, Jean-François Piège est notre invité. Déborah Dupont-Daguet sera avec nous dans quelques instants pour parler avec vous de ces livres de cuisine, peut-être les plus mythiques aussi qui puissent exister. Mais la musique. La musique dans la vie de Jean-François Piège, on va commencer en 87.
On a eu un avant-goût déjà.
La playlist de Jean-François Piège.
Laquelle?
Voyage en 87, Leïla, et que faisait Jean-François à ce moment-là?
Vous êtes à l'école hôtelière, à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. C'est plutôt une belle région, justement.
C'est la mienne, donc je ne vais pas vous dire le contraire.
pour commencer, parce que j'imagine que la matière première, elle est intéressante aussi dans la Drôme.
Elle est intéressante, et puis c'est comme ça qu'en fait les régions sont dessinées en France, c'est à travers leur capacité à produire, et en plus... On peut le dire, on va dire consommer avec modération, mais c'est une région qui fait des très bons vins. Parce que la table, c'est aussi, je pense que ce qui est essentiel à la table, c'est le vin aussi.
Mmh. Et quand vous entrez à l'école hôtelière, vous savez déjà ce que vous avez envie de faire? Parce que on apprend un peu tous les métiers à l'école hôtelière, non?
Alors, la première année, on fait du service, de la cuisine. Ouais. Moi, j'étais focus cuisine, mais il y a ce qu'on appelle une année d'orientation. Je crois plus que ça existe aujourd'hui. Et tout le monde priait pour ceux qui souhaitaient faire de la cuisine, aller en cuisine, mais c'était pas nous qui décidions à l'époque.
Dès le début, ils décident maintenant s'ils sont à l'hôtel, à la, la gestion, entre guillemets, ou à la cuisine, c'est ça?
Et pas à mon époque.
Et là, c'était un prof qui décidait où vous orientez, en fait, en fonction de vos capacités?
Oui, il y avait un conseil de classe à la fin.
Ah oui, d'accord.
Ouais, il y avait deux classes, et dans les 70 élèves qui étaient ces deux classes, il y en avait la moitié qui partait en cuisine, la moitié qui partait en salle.
Ah ouais. c'était jugé comment c'était les bons?
Les meilleurs dossiers, oui.
C'est ça?
Ah oui.
Et les bons allaient en cuisine ou allaient au contraire
non,
à l'hôtellerie?
Non, suivaient le choix, suivaient leur choix, mais il y avait plus de destinations vers la cuisine.
D'accord.
1989. Et là, c'est la danse qui s'empare de vous, Jean-François.
Mais comment vous savez ça? Non, ça, c'est un petit clin d'œil à mon épouse parce qu'elle est fan de Madonna. Et 89, bon...
Et le gratin dauphinois.
Et voilà.
Vous avez reçu Madonna déjà dans un de vos restaurants?
Quand j'étais chef au crayon, oui.
Ah, waouh.
Oui, parce qu'elle venait au crayon.
Et elle a commandé, vous vous souvenez de ce qu'elle commandait?
Oui, parce qu'elle avait son cuisinier, c'est pas moi qui le faisais.
C'est une blague?
Non, non, c'est vrai.
Madonna venait avec son cuisinier, mais quel intérêt de venir dans un restaurant si c'est pour avoir son propre cuisinier?
Non, elle était à l'hôtel, et à l'époque, elle mangeait d'une certaine façon.
Et plutôt gaz ou induction?
Elle est cocotte en fonte.
Elle est plutôt... il a fallu qu'on cuisine avant 18h parce que...
Elle mange tôt?
Non, parce que je pense qu'elle a mangé quand le concert devait débuter.
Ah bon? Ah ouais, d'accord.
Ok, donc son emploi du temps était calé sur son...
Ouais, absolument.
Personnel.
Et donc vous assistez quoi à la cuisine?
Oh, rien, nous on fournissait les produits, on regardait et puis ça se passait bien.
89, on parle beaucoup de mentors dans une vie de cuisinier. C'est l'un des premiers mentors que vous rencontrez, c'est Bruno
Cirino.
Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Que la cuisine, c'est pas une phrase de lui, mais que c'est plus que des recettes. C'est quelqu'un qui a un toucher de cuisine et qui a un savoir assez incroyable. Et au début, il me dit, tiens, va me chercher des carottes. Pas celle-là. Les carottes. Non, pas celle-là. En fait, que chaque produit a sa destination, son utilisation, pour faire ce qu'on imagine plus tard.
Et donc, comment apprendre? C'est-à-dire en essayant et en ratant?
Ah non, on apprend qu'en ratant. Je sais que c'est dur à entendre, mais...
Putain, je suis sur la bonne voie. Hein.
Mais ça on va y arriver, on va y arriver.
Ah, je peux te le dire.
Non, la cuisine, ça prend 40 ans, parce que quand on l'a réussi, on ne sait pas pourquoi on l'a réussi.
Ouais.
En revanche, quand on la rate et qu'on se met à réfléchir dessus, on se dit, tiens, bah, peut-être comment je vais réussir. Et à un moment donné, ça passe.
Et vous aviez déjà à l'époque...
Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons.
Exactement.
Elle s'est demandé là.
Ouais, et vous aviez déjà à l'époque ce rapport aux livres, parce qu'on sait que vous aimez les livres, vous aviez une passion des livres de cuisine.
Ouais, j'ai une passion, mais ce rapport, je l'ai eu avant, en fait. Je l'ai eu grâce à un livre... À l'époque, j'avais avec mon argent de poche, j'achetais des livres et j'avais totalement usé mon argent de poche dans les livres. Et je vais voir ma maman, je lui dis, écoute, il y a un livre qui s'appelle La France à la carte et j'ai envie de l'acheter. Et elle me dit, non, c'est bon, t'en as déjà acheté 3 ce mois-ci. Et je crois que je l'ai supplié, j'ai pas eu gain de cause immédiat, mais je l'ai lu assez rapidement quand même.
Et c'était quoi
C'était un livre, en fait, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
Ouais.
C'était un livre où tous les chefs donnaient une recette. Et en fait, moi, je regardais ça comme on peut regarder Instagram aujourd'hui. Mmh. C'était Instagram de l'époque, en fait, c'était les livres.
Mmh. Et alors, justement, pourquoi faire un livre maintenant que tout se retrouve sur Internet, sur Instagram et d'une manière extrêmement rapide?
Et que ça pèse moins lourd.
On tape. Non, mais sincèrement, est-ce que la concurrence d'Internet, et d'ailleurs, vous mettez beaucoup de sites Internet à la fin du livre en référence, la concurrence des Instagram, y compris le vôtre, où vous montrez beaucoup de recettes, ne vient pas de nuire. Ouais.
Ah non,
c'est un objet à garder.
Bah, c'est-à-dire que si on compile pas tout, j'ai eu la question aussi, pourquoi j'ai pas fait région par région? Parce que ça aurait fait 12 petits livres qui étaient plus faciles à prendre. Sauf que quand on n'a qu'un livre, on a tout dedans, en fait. Et que quand je cherchais une recette, j'en ai trouvé une autre. On va chercher une recette et on va peut-être en voir une autre.
Ouais.
Et c'est comme ça
le hasard de la page,
feuilletant, ouais. Okay.
Ouais. Et je pense que c'est ça qui est super important, et c'est complémentaire parce qu'Instagram, ça porte bien son nom, c'est l'instantanéité, et que ça, c'est l'histoire.
En 91, vous écoutiez Lenny Kravitz. Mmh. Kravitz qui va revenir en 2025 en tournée en France, mais là en 91.
Je sais pas ce qu'il mange lui, mais il a une forme incroyable. Lenny Kravitz. Non, mais c'est vrai, vous avez vu une photo récemment de Lenny Kravitz.
Bah, il mange la cuisine des territoires.
Ah ouais, je sais pas ce qu'il fait. 91, pardon, Jean-François, on vous retrouve au service militaire et vous passez les 10 plus beaux mois de votre vie, enfin en tout cas des mois sympas.
Ouais,
c'est à l'Elysée. Pas mal.
Sympa pour votre femme, ça. En
fait. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai un peu nuancé.
Merci.
T'as compris que. faire son service militaire au palais de l'Elysée.
Ouais, c'était pas mal. Dans mais c'est pas l'Elysée qui était intéressant, c'est qu'il y avait un chef qui était incroyable qui s'appelait Joël Normand. Et qui avait une connaissance encyclopédique de la cuisine, qui était un meilleur ouvrier de France. Et moi, je me suis nourri de son savoir pendant ces 10 mois. Ça m'a permis de construire une partie de mon savoir, de le côtoyer. Et c'est ça qui était dingue.
De même qu'il y a des superstitions, on n'est jamais très à table. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques qu'on peut observer au Palais de l'Élysée en termes de disposition, de plats, de choses qu'il ne faut surtout pas faire
Ah oui, alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui était assez sympathique. À l'Élysée, quand j'y étais, on servait à la française, c'est-à-dire que c'était servi sur un plat. Aujourd'hui, c'est servi à l'assiette, avant c'était servi sur un plat. Et quand il y avait...
Et quand on sert sur un plat, on sert par la gauche pour que le convive se serve, c'est ça ?
Absolument.
Et quand c'est à l'assiette, c'est sur la droite à la russe.
Bien
non, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bravo. Et sauf que à l'Élysée,
mes enfants à l'école hôtelière. Mes enfants à l'école hôtelière m'apprennent.
Les copains avec Poutine.
Ils te servent à la maison.
Non, ils attendent. Ils me disent, t'es gentil, papa, tu me sers sur la droite.
Et donc, le service à la française, celui qui manque, c'est le convive qui se sert.
Ok.
Et donc, le dernier convive ne termine jamais le plat. Donc, s'il y avait 10 personnes à table, on mettait 11 portions.
D'accord.
Ah, mais qui mange le dernier alors
ben, s'il reste un filet de sol, vous faites quoi?
Les cuisiniers ou les cuisinières?
Et pourquoi faut pas finir?
Bah, c'était
pour pas qu'il finisse le
plat. Dans la tradition française, à l'époque, quand c'est servi à la française, il y a toujours une portion de plus que le nombre de convives à table pour que le dernier n'ait pas l'impression de terminer le plat.
Il a encore un choix, c'est-à-dire qu'il aura deux tranches de viande, de poisson.
On ne prend pas la dernière part.
Il a encore un choix.
Daniel, il prendrait les deux.
Tu me donnes les deux, je dis merci beaucoup. Merci, on va pas cacher.
Déborah Dupont-Daguet nous a rejoint. Bonjour, madame. Vous êtes directrice de la librairie Gourmande, spécialisée gastronomie et œnologie à Paris et Dijon. Vous avez publié même le cookie de nos rêves, les pâtes de nos rêves. Et le petit dernier, le pâté de nos rêves, tout ça aux éditions First. Quel est le premier livre de recettes de cuisine le plus connu? C'est quoi? C'est Escoffier?
Alors, le plus connu, c'est sans doute Escoffier. Le premier, c'est l'art culinaire d'Apicius qui date du 4e siècle. Donc là, on est sur un ouvrage en latin, mais qui nous est parvenu.
Pas inintéressant non plus.
Et dont il reste quelque chose, oui.
Il reste quelque chose. Et puis on a des reprints, bien évidemment, qui circulent encore et heureusement. Mais des livres de cuisine du Moyen Âge, on en a effectivement des reprints de la BNF qui sont trouvables et qui coûtent vraiment pas cher.
Donc ça veut dire, mais comment les idées de cuisine ou de recettes sont venues à Apicius?
Alors Apicius était un riche romain, c'était un gastronome, lui du 1er siècle. Donc il était riche, il aimait manger et il en faisait profiter toute l'intelligentsia romaine de l'époque. Et les textes, en fait, sont ressortis au 4e siècle. Donc entre-temps, il y a eu une sorte d'éclipse et c'était une compilation de 10 petits carnets.
D'accord.
Est-ce qu'ils étaient déjà forts en cuisine, les Italiens, entre guillemets ?
Alors, les Romains étaient effectivement très forts en cuisine.
Ouais, sauf qu'il n'y avait pas de pâte à l'époque.
Non, il n'y avait pas de pâte à l'époque.
La pasta n'existait pas.
La sauce tomate non plus. Hein, ça
c'est vrai
pas maintenant, la tomate est arrivée.
Ben non, elle est arrivée.
C'est vrai.
Avec les pommes de terre. Arrête de manger italien.
Ouais, c'est ça. C'est
bon. Ouais, avant.
Mais il y avait de la viande, des faisans, des oiseaux.
Exactement, énormément.
Ils mangeaient français, quoi.
T'as raison, hein. Ah ouais, ils bouffaient français.
Pas mal d'épices, j'imagine.
Énormément d'épices, énormément de vin. Et des garums aussi, des sauces fermentées qu'on retrouve d'ailleurs, qui sont très à la mode.
Il y a des repas organisés parfois où on essaie de reconstituer des repas à la romaine. C'est...
Non mais au-delà justement de...
Ah, c'est des soirées sympas ça.
C'est après les orgies, hein. C'est juste après l'orgie.
Ce qu'on mange, mais par contre c'est sympa.
Les soirées chez Leïla.
Je voulais pas dire.
Ça n'a rien à voir avec les soirées chez l'ambassadeur, mais...
Alors, mais t'apprends
des trucs, au moins, voilà.
On va sortir un livre aussi avec Leïla.
Mais là où Alexandre a raison, c'est la preuve que les recettes évoluent en fonction de des voyages, des conquêtes à l'époque. Et quand je ne sais pas si c'est Marco Polo vraiment qui est revenu avec les pâtes de Chine, mais la cuisine italienne n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant.
Ah non, mais comme la cuisine française, ça a évolué aussi. Et ensuite, on a presque 1000 ans pendant lesquels on n'a pas vraiment de traces de livres de cuisine. Et le premier livre de cuisine du Moyen Âge, c'est le Viandier, donc de Guillaume Tirel d'Itaillevent, en 1380. Et là, on est sur vraiment le premier livre marquant français cette fois-ci.
Il y a des livres de recettes qui sont extrêmement populaires, des livres que l'on retrouve dans toutes les cuisines de France.
Ah, oui, alors là on est sur des livres beaucoup plus récents. Ginette Mathiot.
Ah ouais.
Je pense que ça. Selon les familles, on est Ginette Mathiot ou Françoise Bernard. Donc Ginette Mathiot, 1932. Livre avec à peu près 900 000 recettes.
900 000
sans aucune photo.
Les feignants.
Sans aucune photo. C'est un élément important pour vous, la photo, dans un livre de cuisine ?
Alors, pour moi, non. Pour la plupart des clients, effectivement, ça reste encore un marqueur important. On a besoin du visuel pour se raccrocher. Quand on n'a pas eu la transmission culinaire, quand on a la chance de grandir dans une famille où on a vu et où on a appris, la photo est peut-être un petit peu moins importante. Et puis, selon les familles,
pourtant,
on a aussi Françoise Bernard.
D'accord. Et pourtant, on commence à manger avec les yeux quand même. La présentation, la tête que ça a, à quoi ça doit ressembler quand on essaye une recette.
Oui, c'est surtout ça ce qui guide. C'est à quoi est-ce
et
que ça
doit
ressembler.
Je pense qu'on peut rajouter l'art culinaire français aussi, peut-être.
L'art culinaire français, ouais, exactement.
Un peu plus tard,
un
qui
peu
a
plus
été.
Tard.
Ouais, et la rousse gastronomique.
La rousse gastronomique, et puis en beaucoup plus récent, Simplissime de Jean-François Mallet. Il faut reconnaître que ça a été un énorme succès.
Est-ce que c'est un passage obligé pour un grand chef d'avoir son livre, sa référence?
Alors, oui et non. C'est un passage de plus en plus obligé pour des questions de marketing communication. Maintenant, on en a souvent parlé avec Jean-François.
Je vais souvent dans sa librairie.
On se connaît assez bien, effectivement. Est-ce que tous les livres de chefs sont réellement intéressants? Ça, c'est un autre sujet. Beaucoup, on est... Non, mais c'est vrai.
Ça, c'est fait.
Oui, oui. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, un nouveau livre? La plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de découvrir un établissement, de découvrir un univers.
Comme la cuisine évolue, j'imagine que les livres évoluent avec, non?
Oui, mais les livres de chef, Jean-François a cette capacité, cette intelligence de rendre sa cuisine accessible aux personnes. La plupart des chefs font des livres qui sont utilisables uniquement par une brigade de professionnels dans une cuisine professionnelle. Qu'est-ce qu'on en fait à la maison? Ça, je ne suis pas sûre de la réponse.
Est-ce qu'il y a des livres de recettes de cuisine chez tous les chefs?
Ah oui, je pense que c'est une passion qui est commune à tous les chefs. Hein.
Ouais. Les chefs sont collectionneurs.
En fait, le livre de cuisine, c'est... Soit on le fait pour soi et à ce moment-là on montre ce qu'on fait chez soi et ça a pas un intérêt incroyable. Soit on fait un livre pour dire quelque chose et on pense aux autres. Moi je suis plus dans cette version-là, je crois que c'est ça qui est important dans un livre, c'est passer un message de quelque chose. Et c'est pour ça que mes livres, ils parlent pas forcément de mes restaurants, ils parlent de ce que je pense qui est dans l'air du temps en fait. Je pense que la cuisine des territoires, cette identité qui glisse un peu là, bah, il faut en parler parce que sinon ces recettes elles vont disparaître.
Qui glisse dans le mauvais sens du terme.
Ouais, qui glisse dans la mauvaise pente. Ouais.
D'accord. Et pourtant, on est dans un retour à la culture, à la saisonnalité, avec la réalité des produits. Donc on a plutôt le sentiment de revenir vers des fondamentaux. Non ?
Ouais, mais si on regarde le nombre de restaurants qui ouvrent, qui embrassent l'idée de faire cette cuisine-là, il n'y en a pas pléthore.
Oui, non, on est quand même effectivement sur une pente pas formidable, une perte de transmission chez les jeunes notamment qui ont perdu cette connaissance culinaire. Et c'est vrai que le livre reste un marqueur important. Instagram montre des visuels, on n'a aucune notion du goût,
oui,
on n'a aucune...
Oui.
Aucune notion la plupart du temps de comment ça se prépare, comment est-ce que ça s'assaisonne.
Il y a même des chefs qui réussissent à avoir beaucoup de followers instagrammeurs avec de très très belles photos, de très très beaux produits, mais qui sont juste dégueulasses à manger.
Oui, ou d'autres qui n'ont...
Non, pas dedans.
Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'émissions.
Ça me démange.
Non, Nagui.
Ça me démange.
C'est pas bien. Il va le dire en plus.
Est-ce que la tendance de faire attention aussi à sa santé, de manger moins gras, plus équilibré, d'alterner les jours avec ou sans viande, d'avoir de moins en moins de sucre dans les recettes. Tout ça font aussi évoluer les livres ?
On a effectivement un besoin de se réapproprier l'alimentation. C'est-à-dire, il y a des discours nutritionnels qui sont angoissants, faut être honnête. Des scandales alimentaires qui sont pas joyeux non plus. Donc, à un moment, le seul moyen de sortir de tout ça, c'est de cuisiner soi-même.
C'est quoi la tendance ? C'est sans gluten, IGBA ?
Non, ça, c'est, IGBA peut-être. Sans gluten, c'est passé,
c'est
ça a été une mode.
C'est quoi IGBA ?
Index glycémique bas.
On baisse le sucre. On mange moins de sucre.
Mais c'est pas que d'accord. le sucre tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire c'est aussi sucre réduire dans, fruits, dans le pain, dans ouais, les
glucides.
Les glucides, en fait.
Dans les lipides, ah, c'est glucides, le gras. Glucides,
non, mais attendez, donc ça veut dire qu'il faut calculer, il faut savoir.
Il faut savoir que certains aliments ont un indice glycémique qui est plus bas que d'autres, ce qui évite de te faire monter ta
glycémie. Une baguette de pain, c'est. C'est pas l'image, c'est une vingtaine de carrés de sucre.
D'accord.
Et genre, pourtant, dans la recette, il n'y en a pas.
C'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde le sait, ça.
Non.
Ouais. Ah, ouais,
non, pas tout le monde, mais oui.
Même si on apprend tous les jours. Hein.
Il faut...
Ok, ouais. D'accord.
Donc, jusqu'à hier, je croyais que...
Donc, il y a des livres de recettes qui prennent ça en compte.
Ouais. Des livres de recettes qui prennent d'accord. ça en compte. Okay. La grande mode de 2024, c'est l'Actifry, la fameuse...
C'est quoi, ça ?
C'est une sorte de mini-four, grosse friteuse.
L'air fryer.
L'air fryer.
Actifry, oui.
L'air fryer.
Donc, qui est le cadeau de nos la tendance, et donc là, effectivement, on doit avoir une trentaine de livres
oui.
qui sont sortis.
Vous en pensez quoi, Jean-François, de
Air Fryer ?
Comment c'est... Allô ?
C'est vrai qu'on le voit partout, on a l'impression qu'en tout cas, tu cuis plus vite et que ça fait pas de gras.
Est-ce que ta femme a Air Fryer ?
Vous avez testé.
Laissez-le parler.
Oui, j'en ai acheté un pour voir.
Bah, bien sûr.
Et quand on n'a pas la capacité à avoir un four, bah, c'est un palliatif qui peut être intéressant. Maintenant, ça ne remplacera jamais la cuisson traditionnelle.
Ouais.
Merci beaucoup, Déborah, d'être venue à ce micro. Merci. Déborah Dupont-Daguet, qui signe également donc ce dernier livre.
Il est très très beau, le livre des
pâtés.
J'ai acheté la dernière fois des pâtés. Les autres sont très beaux, mais
pâtés de nos rêves.
Ce n'est pas moi qui l'ai signé, c'est la chef Laetitia Viss. Ouais.
Très bien. Alexandre Kominek, de quoi allons-nous parler dans la dernière demi-heure ?
On parlera amour et football. Il y a un joueur qui est en plein divorce en ce moment. On accueillera son avocat.
Le meilleur de la bande originale continue. Oui, c'est la deuxième partie avec notre invité du jour, Leïla.
Et on passe à table avec Jean-François Piège.
Est-ce que c'est un bon chef au moins ?
Ouais.
Mais Daniel, t'as déjà goûté ou pas ?
Bah non, jamais.
Merde.
Bah, je travaille sur Inter.
Ah bah oui, c'est ça.
Pas le moyen.
Je me disais aussi.
Gaz, induction, il sait tout faire.
Jean-François Attends, il y a gaz, il y a induction, il y a électrique aussi, t'as oublié.
Il y a électrique, ça marche.
Non, ouais, je sais pas.
Oui, l'induction électrique.
Induction électrique, rien à dire.
Le Grand Restaurant figure dans la liste des 1000 meilleurs restaurants du monde. Bravo pour ça, Jean-François Piège. Vous avez obtenu la note de 97,5 sur 100, comme dirait mon fils. Pourquoi vous n'avez pas eu 100 sur 100 Le Goemio vous a attribué 5 tocs et la note de 19 sur 20 au Grand Restaurant. Vous publiez des vidéos sur votre compte Instagram. Vous êtes à la tête de 5 restaurants à Paris. L'Épidore, Clover, Clover Grill, Le Grand Restaurant, 2 étoiles au Guide Michelin. La Poule au Pot également, à la tête du restaurant Mimosa au sein de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Vous dirigez Clover Gord à la Bastide. Vous avez un restaurant à Taïwan qui s'appelle Clover Bella Vita. Celui de au Salman à Marrakech également qui s'appelle La Terrasse. Jardin Tropézien à Saint-Tropez, il y a un moment où vous arrivez à tout faire, sans blaguer. C'est fou, non ?
Oui, parce que je ne suis pas tout seul.
Non, mais de se
rendre... Oui, bon, on s'en était douté, Jean-François.
Non, mais de voir... Vous n'êtes pas tout seul, mais vous connaissant un tout petit peu, j'imagine que vous ne laissez pas non plus tout le monde faire n'importe quoi.
Oui, tout va bien. Ça se passe bien. Non, c'est des aventures culinaires en fait qui sont intéressantes.
Ok, mais s'il y a une limite à pas franchir, est-ce qu'il y a un moment où vous allez vous dire là
la limite, c'est que
je ne peux pas avoir un restaurant à Los Angeles, à New York, à Londres, en plus de tout ce que j'ai par exemple.
Non, mais la limite, c'est que la cuisine s'arrête en fait. Tant que je pense cuisine, tant que je fais cuisine, tant que tout ce que je fais, c'est des aventures de cuisine. Un livre, c'est une aventure de cuisine en fait.
Oui, mais la difficulté aussi, c'est lorsque vous avez un restaurant et que l'on va dans l'un de vos restaurants, mais de cette marque, on s'attend à vous voir aussi. On se dit, ah, le chef est pas là.
J'ai jamais triché de dire que j'étais résident qu'au Grand Restaurant et que les autres, je les pilotais. Mais le danger, c'est que ça devienne un business qu'on ne pense qu'à se dire, on va faire un restaurant de plus. Non, moi, on fait des restaurants parce que je pense qu'il y a quelque chose en cuisine à faire derrière.
Très bien, on en parle jusqu'à midi et demi avec Jean-François Piège. Voici Monsieur Alexandre Kominek. Ah. Alexandre Kominek, qui est avec nous, enfin qui devait être avec nous, mais malheureusement mais non, il est pas là.
Il n'est plus là, il est parti déjeuner.
Il est pas le seul d'ailleurs à pas être là.
Il est parti déjeuner, pardon, avec Cyril Hanouna. Voilà, j'ai une information de dernière minute, mais j'ai un invité qui va vous intéresser, car on va parler football et amour. Nous recevons Maître Fourbas, avocat du joueur argentin Enzo Fernandez, qui est au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. En effet, il lui est reproché d'avoir quitté sa femme et ses enfants dès lors qu'il a gagné la Coupe du Monde et signé à Chelsea, visiblement pour profiter de sa notoriété auprès d'autres femmes.
Objection, Leïla. Vous ne pouvez pas résumer la situation de la sorte. In dubio pro reo, hein, le doute profite à l'accusé. Vous chargez mon client alors que la première fois que j'ai vu sa femme, je me suis demandé s'il était vraiment joueur de foot professionnel. Tout à fait. Vous oubliez de préciser que sa femme, Madame Boudadi, a pris 30 kilos lors de son deuxième accouchement. 30 kilos pour un bébé pesant 2,8 kg à la naissance. Faut m'expliquer la raison des 27 kilos de restants. Hein, ou peut-être qu'elle n'a toujours pas expulsé le vélo électrique qui venait avec.
Non mais vous êtes affreux, maître.
Madame Boudet, je vous demanderai de ne pas m'insulter et surtout de vous mettre à la place de la victime. Mm. Enfin, si vous y arrivez, vu la taille de votre ego. Oui, Monsieur Fernandez est la victime. Oui, car Monsieur Fernandez se bat pour devenir professionnel. Il court sur les terrains pendant que Madame se goinfre sur le canapé, attendant de mettre sa gestation à terme. Mais ce n'est pas tout. Depuis la naissance de l'enfant cycliste, apparemment, le visage de Madame est marqué de cernes, à tel point que lors de leur dernier déplacement en Floride avec l'équipe d'Argentine, les autorités américaines ont placé Madame dans un bassin à Orlando, pensant que c'était une orque. Oui, Madame Boudadi, prenez le temps d'ouvrir le passeport de Madame, on dirait l'affiche de Sauver Willy.
Non, mais vous rendez compte de vos allégations, maître? Pendant que monsieur courait sur le terrain, comme vous dites, Madame Fernandez, eh bien, elle travaillait dans un restaurant d'empanadas.
Et vous voulez nous faire pleurer, Madame Boudadi? Hein? Il se trouve que j'ai eu la chance de les goûter. Hein, ces fameux petits chaussons en pâte feuilletée, parfois en pâte à pain, farcis de viande, de poisson, d'œufs, de pommes de terre ou d'autres ingrédients selon les côtés de chaque région. Ils étaient tout bonnement dégueulasses. N'importe quel juge qui croque dedans lui rajoute 4 ans ferme à la pépita. 4 ans, impulitum non reliqui fascinus. Un acte criminel ne doit pas demeurer impuni, Madame Boudadi. Mais si vous le voulez bien, évitons vos discours misogynes et sortons un peu de la cuisine. Monsieur Fernandez a été transféré pour près de 150 millions d'euros l'année passée. 150 millions d'euros, Madame Boudadi. Vous savez ce que c'est? Non. Monsieur Morin? Non. Comment tu vas, Nagui? Quand vous coûtez 150 millions, excusez-moi, je parle. Quand vous coûtez 150 millions, je pense que vous pouvez un peu élever vos standards, Madame Boudadi. Hein, lorsque le rêve est accessible, est-ce que l'on s'encombre avec les camelots du passé? Non, je ne pense pas. Hein. Je vous donne un exemple, Madame Boudadi. Si vous devenez multimillionnaire, est-ce que vous continuerez à rouler en Ford Fiesta? Je ne pense pas. Hein. Je dirais même que, in fine, mon client a eu encore l'élégance d'utiliser sa vieille charrette pour se rendre chez un nouveau concessionnaire.
Mais quel connard!
Ce sont d'être misandre, Madame Boudadi. Et je vous l'accorde, appelons une femme, une femme. Depuis son transfert, mon client est harcelé, d'ailleurs, par les êtres de votre espèce, des femmes.
Ouais, bien sûr. Ouais,
bravo. Que dis-je? Des nymphes. Oh. Extraordinaires. Ah. Des muses, des anges, et des anges de 50 kilos max. J'ai eu la chance de partager un délicieux moment dans un ascenseur avec certaines d'entre elles. Nous étions 48 à bord. 46 filles, ma verge et moi. Et puis Monsieur Fernandez, il est champion du monde. Et selon le code du mariage, article 412, alinéa 4, toute personne ayant remporté la même compétition que Zidane ou Messi a le droit d'aller butiner post-nuptias.
Ah bon?
Dans... Bien bon. Monsieur femme, enfin, dans butiner, il y a le mot but, hein? N'est-ce pas précisément ce qu'on attend d'un footballeur, hein? Alors comment blâmer mon client, hein? Et je vous signale au passage que Monsieur Fernandez a 3 étoiles jaunes sur son maillot. 3 étoiles jaunes, s'en prendre à lui, est un acte antisémite au cube, Madame Boudadi. Oui, Madame Boudadi. Et je pèse mes mots, Madame Boudadi. Monsieur Fernandez, mais Monsieur Fernandez, déjà, n'y a-t-il pas quelque chose qui sonne dans votre oreille, Madame Boudadi? Hein? Fernandez. Hein, mon client est issu d'une famille qui n'a à qui rien n'était promis, si ce n'est le rez-de-chaussée.
ce procès, c'est celui, et je pèse mes mots, de l'anti-hispanisme.
Mais monsieur, mais vous dites n'importe quoi, sa femme s'appelle Madame Cervantes, et elle est également née en Argentine.
Oui, mais elle est grosse. Et entre les latinos et les gros, c'est comme au Shifumi. Le pierre casse le ciseau coupe la feuille, l'obèse mange le tacos.
Maître, c'est tout bonnement honteux. C'est de la diffamation. Je suis sur son Instagram. Elle a une taille mannequin. Elle n'est pas du tout ronde.
Elle l'a été, hein, ou elle le sera. Voilà. Et les ballons, monsieur Fernandez, il en a déjà au travail. Ne jouez pas sur les mots. Non mais madame Boudadi, vous faites semblant de ne pas me comprendre. Mais j'en prends note et la prochaine fois, je viendrai avec mon interprète berbère. Voilà. N'hatnez quel coup si belle route. Oui, madame Boudadi, moi aussi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis.
Oui, 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 oui. Alors n'essayez pas de nous enfumer, maître, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et que madame Cervantes soit grosse ou maigre, c'est pas un argument. Chacun a le droit d'être comme il veut.
Eh bien, si vous trouvez que mon client est tout bonnement une merde, comme le souligne votre regard de Fennec, il en a le droit, madame Boudadi, n'est-ce pas? Chacun a le droit d'être comme il veut.
Oui.
Hein? Le disiez-vous. Je vous signale tout de même que madame aura sa part du gâteau. Hein, elle sera nourrie, logée, pourra nager dans sa piscine avec ses deux têtards sans se préoccuper de quoi que ce soit. Une vie de saumon d'élevage, sous le soleil de Buenos Aires.
Non mais vous êtes vraiment affreux.
Merci madame Boudadi. Et j'en profite pour vous souhaiter beaucoup de bonheur avec votre amour de jeunesse provinciale, avec lequel vous êtes resté malgré votre indéniable réussite dans le monde des médias. Hein, à moins que vous aussi vous soyez passé chez le concessionnaire. Hein. Car ne dit-on pas « Argentum changeae debitum » Ai-je besoin de traduire? Je ne pense pas. Passez une bonne journée.
Et la bonne journée.
Merci. La bande originale de Jean-François Piège continue juste après SZA avec BMF. De SZA sur FI, France Inter. L'encyclopédie culinaire des territoires de France, signée Jean-François Piège. Autre événement culturel, oui. Leïla.
On cherche un métier, un nouveau métier en rapport avec le monde de la gastronomie. Oh. Et en ce sens, ça se rapproche du monde du cinéma et du monde du football.
Agent ?
Oula.
Absolument, agent culinaire. Wow. C'est un métier qui se développe depuis quelques années. Je vois la tête de Jean-François.
Vous avez rien dit ? Vous avez un agent ?
Non.
Voilà, alors de plus en plus de jeunes cuisiniers ont des agents. Il y a un article qui est consacré à ce sujet dans Le Monde où on voit surtout des candidats qui sortent de télé-réalité et qui sont accompagnés par des agents qui leur permettent de gérer un peu mieux leur
peut-être
carrière.
Même qui vont les chercher avant, non ?
Ouais, qui, hein, avant la finale. Ouais, ils repèrent avant en réalité et ils se disent s'il y a comme un après, il faut les suivre.
Comme pour le foot.
Comme pour les foot, on les détecte.
T'as raison.
C'est un peu le même principe. Qui font ce travail de gestion de carrière, qui font aussi un travail sur l'image, parce qu'à un moment, il faut se positionner dans ce marché. Qu'est-ce qu'on veut incarner? Quel genre de cuisine aussi et quel est l'espace libre? Il faut faire une sorte de benchmark un peu de la situation et qui les conseille et qui essaye aussi de voir comment on fait pour générer du revenu. Parce que le revenu, c'est en effet, c'est des collaborations sur Instagram, un certain nombre, des dîners événementiels. Alors là, il faut être quand même un peu capé pour s'occuper d'un dîner. La fonction traiteur, la création de cartes. Vous n'êtes pas accompagné, Jean-François. La gestion d'image, par exemple, les marques auxquelles vous voulez bien accoler votre nom, les produits, c'est qui vous...
Bah c'est, nous, on fait sans famille. C'est Elodie, mon épouse, qui gère cette partie-là.
Qui prend 25% par
J'espère qu'elle prend au moins 25.
Ben non, parce que c'est...
Elle prend 50.
J'aimerais bien.
Elle a plus. Ouais.
Depuis sa recette de gratin dauphinois.
Au gaz.
C'est vous et elle, c'est tous les deux, vous estimez, en termes de positionnement ?
Non, tout ce qu'on fait, on le fait à deux, c'est pas mes restaurants, c'est nos restaurants.
Oui, mais en termes de positionnement d'image, c'est-à-dire, est-ce que vous prêtez votre image à des ustensiles ou à des produits ? Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez pour aussi des marques qui sont en dehors du monde de la cuisine, d'ailleurs ?
Parce qu'on y trouve un intérêt, en fait. Alors... J'attendais la vanne.
Non,
personne ne l'a fait.
Non, vous parlez de l'intérêt, c'est-à-dire de financier ou l'intérêt en termes de valeur.
Enfin, en termes de valeur, en termes de valeur.
Humaine.
En termes de valeur.
Aussi.
Ouais, on a fait une collaboration pour faire avec Moviel des casseroles et des poêles. Et en fait, Moviel, c'est une très belle marque et les casseroles, elles étaient top. Donc effectivement, il y avait un intérêt de le faire. Parce que les poêles anti-adhésives n'étaient pas faites avec la matière qui peut être complexe. Et elles étaient...
Ah, surtout que maintenant il faut faire attention parce qu'il y a des produits
qui sont
exactement.
Ouais, c'est ça,
ouais, exactement. Et maintenant il y a une boîte qui a développé un revêtement en pierre qui est anti-adhésif et qui est super.
Voici Rebecca Balestra.
Mais encore ces faux applaudissements ?
Oui.
Mais nom de Dieu. Est-ce que vous êtes tellement en frousse que c'est trop de boulot de vous demander de taper dans vos mains, manque de tir au cul ?
On le fait en même temps.
Fait, ça vous arrache la gueule d'encourager quelqu'un. Quelle attitude de merde. C'est pour ça que personne n'a regardé vos bravos d'or, Leïla et Nagui. Les Français, vous applaudissez pas. Vous préférez huer comme à Roland Garros.
Ouais.
Votre trophée en forme de main qui clappe, vous auriez dû le mouler en forme de poing rageur, de pouce vers le bas, de majeur tendu. Là, les gens se seraient posé moins de questions. Notamment celle qui est revenue le plus. Pourquoi la caméra filmait tout le monde de dos? Mais qui sont cons. Mais parce que Gérard Pulicino à la réalisation, lui, sait ce qui intéresse les Français. Le cul. Le cul et les grosses... Je monte mes loges sur France Inter. Pour ceux qui matent, vous pensez peut-être que je milite pour le droit des femmes, pour l'allaitement en public, pour la prévention du cancer du sein. Que dalle ! C'est juste pour booster l'audience avec mes boobs et faire bander la bande originale. Parce que maintenant que je bosse pour vous et qu'Adèle Fonrette a dit que France Inter, c'était une radio qui ressemblait aux Français, ben voilà mes cochons ! La Gaule, c'est vous, non ? Le French Cancan, le Moulin Rouge, les pelles avec la langue, Pigard, Bigard, Bois de Boulogne, les opéra fouf d'Offenbach, Courbet et son anatomie d'une chatte, c'est vous ! Le Cap d'Ac, c'est vous !
Oui.
Canal Plus après minuit, c'est vous ! La syphilis, c'est vous ! DSK, l'abbé Pierre, c'est vous !
Oh.
Daniel Morin, c'est toi ! Ça t'excite, hein, ces grosses balles, Franck Leboeuf ! Heureusement que Cominec est pas là ! Hein, heureusement que Cominec est pas là, il aurait renversé la table avec sa trique ! Là, il a chaud, Alex, mais c'est pas parce qu'il est à Maury, Chris, c'est parce qu'il est en train de se secouer le coco dans la bande originale. Hein, l'émission la plus écoutée de France, pourquoi, à votre avis, hein, bande de porcs. L'île Maurice aussi. Est-ce qu'il n'y a pas plus vulgose que de faire des vacances à Maurice, à Marrakech, à Djerba la Fidèle? Est-ce que vous êtes cheap, les frouzes? Puis quand vous n'êtes pas dans vos resorts all-inclusive bas de gamme avec votre mojito et votre moule beat speedo à vous faire donner le yoga par Daniel, vous voyagez en Vélib ou en Ouigo avec votre passe Navigo, mais c'est ignoble!
Violence.
Ce que vous aviez de plus chic et de plus précieux, c'était la langue française. Et maintenant, vous dites la Covid-19? Mais ça me donne envie de vous baffer avec mes loges! Je vous baffle! Même ici, à la radio, qui est quand même le porte-drapeau de leur oratoire, vous engagez que des gens qui disent trop chelou, meuf, ken et de ouf! C'est d'un grossier! Même vos chroniqueuses, elles ont des noms de niqueuses! Mélodie Fontaine! Si c'est pas un beau pseudo d'actrice de boulard, ça. Pardon, ça me fait penser à mon compte OnlyFans, parce que c'est pas avec votre cachet minable que je vais nourrir mes gosses, hein. Puis en plus, maintenant, comble des vulgarités, la radio est filmée, donc je peux faire d'une pierre deux coups.
Non! Mais non!
Tiens, voilà, bande d'obsédés!
Ah.
Je dis à l'oreille, est-ce que je dois me couvrir? Bon, à la base, j'avais prévu deux sparadraps couleur chair pour censurer mes tétons, mais ça faisait un espèce de monochrome bizarre. On aurait dit que j'avais deux chauves, deux Daniel Morin qui me pompaient les pneus. C'est fou, Philippe Catherine à poil qui vous montre ses grosses couilles et sa petite bite bleue, tout le monde crie au génie. Mais là, je suis une femme, alors tout de suite, c'est scandale en régie. Couvrez ces seins que je ne saurais voir, Tartuffe. Ne te promène donc pas toute nue, Fédo. Vous voyez, Marina Foïs, j'ai des références théâtrales.
Bravo.
Parce qu'en plus d'être une grosse poitrine, je suis une grande actrice. Comme ma sosie, Laetitia Casta. Voilà, j'espère que je vous ai donné un pic d'audience dans le slip. Puis pour ceux qui n'aiment pas, comme cette auditrice de Radio France qui commente « Marre de la bande originale et de leurs blagues en dessous de la ceinture », vous devriez être contente, Marie-Jo. Aujourd'hui, l'humour, il était au-dessus de la ceinture.
Merci, Rebecca Malétoile. Sans aucun effet spécial. Jean-François Piège, l'encyclopédie culinaire des territoires de France. Quand on a vécu tout ce que vous avez vécu, avec cette réussite, avec ces recettes que vous connaissez par cœur, avec cette reconnaissance mondiale, maintenant, est-ce qu'on a encore des rêves? Est-ce qu'on a encore des choses qui sont inatteignables pour l'instant et que vous rêvez d'atteindre en 2025, par exemple?
On aimerait bien, l'année prochaine, la Poule au Pot a 90 ans.
Ah.
Et on va faire, on va essayer de faire des petits restaurants pop-up un jour dans différentes villes. Et j'aimerais bien qu'un jour elle ait une petite sœur à l'étranger, parce que je pense que promouvoir cette cuisine, pas défendre, c'est un mauvais mot, promouvoir cette cuisine d'identité française.
De bistrot?
Autre chose.
Comment?
Ouais, de bistrot, ouais, populaire, ouais.
C'est celle qui est le plus proche du livre, en fait, dans les restaurants que vous avez. Non, c'est pas la
oui,
Poule au Pot,
oui,
le positionnement, ouais.
Et puis pour la troisième étoile, c'est pas moi qui décide, en fait. Je me lève pas le matin en me disant, en me rasant, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de me raser.
non, mais
c'est pas ça, c'est que, oui, évidemment, ça serait un grand bonheur, mais c'est pas ça qui motive mon idée de me dépasser, en fait. Ce dépassement de soi, il faut pas aller le chercher avec les récompenses, parce que sinon on va être toujours déçu, parce qu'il en manquera toujours une. Mais je me lève pas le matin en me disant je vais faire mieux parce que j'ai pas la troisième étoile. Non, je vais faire mieux tous les matins.
Jean-François Piège, des excuses à présenter. Daniel Morin?
Absolument, déjà désolé pour toutes les syllabes qui n'ont pas été prononcées ce matin. Écoutez, c'est pour aller plus vite, hein, essayer de garder les jeunes stagiaires éveillés. Et le concept nous plaît bien. En janvier, là, Nagui nous en parlait, on va essayer un nouveau plan, c'est-à-dire émission sans voyelle. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Désolé pour les feuilles qui se Leïla a besoin de vacances. C'est pas gagné.
Et pourtant, elle a du boulot la semaine prochaine.
Désolé pour Jean-François Piège, je vais vous faire découvrir une autre facette de la gastronomie. C'est la cantoche de Radio France. Alors, Fred Lopez vous attend devant pour ce rendez-vous en terre inconnue culinaire. Désolé enfin pour tous les ânes qui nous écoutent et qui ont été choqués, voire tambourinés quand Nagui, l'iguane du Caire, a provoqué à l'antenne, a évoqué leurs attributs génitaux. Alors, oui, c'est vrai, Nagui a parlé de vos baloches, c'est honteux. En même temps, c'est pas de sa faute, hein, c'est Jean-François Piège, ici le passionné testiculaire. J'en parle dans son livre. Alors sachez que le contraire existe.
Hein.
Chez Larousse, il y a une encyclopédie de la couille, et page 130, il y a une recette de cuisine que personne n'attendait.
Oh, quelle gêne, quelle gêne. Merci Jean-François.
Merci à vous.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla, merci Daniel, merci la bande.
On se retrouve demain, même endroit, même heure, avec une
une immense dame de la chanson, c'est Sylvie Vartan.
Ah, enfin une femme. Allez, sur une semaine, on est sur 20% d'invités féminines. On n'est pas prêt de recevoir le prix Jeannie Longo.
Passez une belle journée sur Terre.